La main verte, avec Orman, le leader européen-allemand dans la fabrication de portes d'entrée et portes de garage. Rendez-vous sur Orman.fr.
La main verte et le pull vert aussi. Bonjour
évidemment.
Alain Baraton.
Bonjour à vous tous, bonjour.
Couleur sapin même, il faut dire.
Oui.
Bonjour Alain.
Oui, un joli vert, je trouve.
Tout à fait.
Absolument. Deux plantes à l'honneur ce matin, le Brugmansia et le Datura. Existe-t-il une différence entre ces deux plantes ?
Pour tous les sites internet que j'ai consultés, les deux plantes sont vraiment distinctes. Il est clairement indiqué, je cite, qu'elles sont bien différentes l'une de l'autre, la première étant une vivace de type arbuste, l'autre une herbacée.
Et pourtant j'ai l'impression que vous doutez.
Oui, car pour l'édition du Grand Larousse des 15 000 plantes et fleurs de jardin et l'édition du Bon Jardinier, il n'y a aucun doute, il s'agit bien de la même plante.
Ah oui.
Nous allons donc simplifier pour ne pas compliquer davantage la situation. Décrivons. Le Brugmansia produit de grosses fleurs semblables à des trompettes de couleur blanche, jaune, orange, rouge ou rose, voire tricolore. La plante est frileuse, elle craint le gel et peut atteindre les 2 mètres de hauteur. Attention ! Évitez d'en placer dans les jardins fréquentés par les enfants. Ses feuilles, racines, fruits et fleurs sont très toxiques.
Et maintenant pour le Datura ?
Le Datura produit de grosses fleurs blanches, semblables à des trompettes, le plus souvent de couleur blanche. La plante est frileuse, elle craint le gel et peut atteindre les 2 mètres de hauteur. Attention ! Évitez d'en placer dans les jardins fréquentés par les enfants. Ses feuilles, racines, fruits et fleurs sont très toxiques.
J'ai un peu l'impression que vous êtes répété.
Oui, vous avez raison. Alors, je vais donc essayer d'être simple.
Il ne lui s'est rien passé, hein,
voilà.
Karine.
Jamais.
En fait, on va simplifier.
Dites-nous.
Jardiniers disent Brugmansia quand les fleurs de la plante sont pendantes et Datura quand elles sont dressées.
On aurait pu commencer par là.
Voilà pour le jeu.
On aurait
vous
pu
lui écrirez sa chronique la semaine prochaine, Karine.
Je suis pas là.
Voilà pour le jeu des différences. Passons aux questions des auditeurs et auditrices de France Inter. Je commence par Cyril. Cyril qui veut des conseils pour son tamaya qui perd ses feuilles, il a une quinzaine d'années. Il s'est beaucoup plu sur mon balcon cet été, dit-il, mais il a perdu ses feuilles depuis que je l'ai rentré. Il est assez haut, près de 2 mètres, et il a encore quelques fleurs. Que faire ?
Alors déjà, j'adore le tamaya, non pas pour la plante, c'est le bégonia qu'on appelle également bégonia bambou. C'est une plante originaire d'Amérique centrale qui est apparue dans nos commerces il y a une trentaine d'années. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 30 ou 40 ans, le bégonia avait un nom un petit peu kitsch, c'était pas très vendeur. Alors, des industriels, des gens en charge
du marketing,
ont décidé de lui donner le nom de tamaya.
Et ça
a
tout changé.
Il n'y a aucune base scientifique, ça a fort bien marché. Et souvenez-vous qu'il y avait une chanteuse d'origine portugaise qui chantait des airs de son pays, qui faisait de la publicité pour cette plante supposée porter bonheur. Depuis, on la voit plus beaucoup, la chanteuse. Comme quoi, il faut quand même être prudent. Alors, quel est le problème
Je vois pas le lien.
Oui,
vous voulez pas répondre, en fait.
Voilà, si. Alors, la question, elle est simple. La plante a subi certainement un choc, là encore, thermique. La plante était à l'extérieur. On la rentre à l'intérieur. Je ne cesse de le dire. Les plantes sont des êtres vivants qui ont besoin de douceur et d'adaptation. Vous avez une plante à l'extérieur, elle est bien, elle est heureuse. Mais le tamaya est une plante d'intérieur. Alors qu'on la laisse en été dans le jardin, bien sûr, mais qu'on ne tarde pas à la rentrer en automne, c'est ce qui s'est passé. Trop attendu, la plante a souffert de l'excès de chaleur, elle a perdu ses feuilles, mais ce n'est pas dramatique, car si la plante ne porte pas bonheur pour les autres, elle porte bonheur à elle-même, elle est résistante.
Alexia s'inquiète pour son cactus. Faut-il couper mon cactus ? Il touche le plafond.
Oui, j'en ai une photo.
La photo est assez impressionnante.
J'ai pas vu. Ah oui, d'accord.
Oui.
On se dit qu'il faut couper, mais est-ce qu'on a le droit de couper un cactus ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est un euphorbe cactus. L'auditrice a eu l'idée d'envoyer la photo. Il est vrai que c'est assez spectaculaire. Alors quand on voit la photo, on voit bien que la plante en fait se développe par plusieurs tronçons en quelque sorte. On voit les renflements. Elle coupe au niveau d'un renflement et ça suffira largement. Il y aura de là un redémarrage. Mais le cactus euphorbe, quand on le coupe à une certaine hauteur, peut provoquer des ramifications et lui donner un peu, vous savez, le côté des cactus dans les westerns, on va souvent.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc il faut pas les laisser grimper en chandelle. Coupez-les au moment des ramifications et vous obtiendrez des cactus qui ressemblent à des petits arbres. C'est beaucoup mieux.
Question de Marianne qui s'agace un peu. Je renouvelle ma question qui ne semble pas encore avoir été retenue. C'est fait. J'ai 4 hibiscus depuis plusieurs années. Ils font beaucoup de feuilles.
C'est beau.
Et très peu ou certains pas du tout de fleurs. Avant de m'en débarrasser, j'aurais aimé savoir s'il existe une solution pour les aider à refleurir, Alain.
Marianne ne va pas être contente parce que je lui réponds sans lui répondre. Déjà, je reçois énormément de courriers et vous vous doutez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde, ce qui explique pourquoi je n'avais pas pris sa demande. Je ne l'avais pas prise non plus parce que son hibiscus, il est en pot, ou en jardin, à l'extérieur, c'est l'hibiscus d'intérieur, celui qui vient des pays chauds, ou c'est l'altea, l'arbuste que nous connaissons bien et qui fleurit le plus souvent blanc, rose, rouge. Pour que je réponde, encore faut-il davantage de précision. Mmh. Donc Marianne,
faut qu'elle écrive à nouveau.
Oui, mais je vous promets, Marianne,
c'est sans fin.
Parole de Jarnier, que je ferai de votre réponse une priorité.
Séverine s'interroge sur son houmon ou femelle qui a des fruits chaque année depuis au moins 15 ans, n'en a pas produit cette année. Que faut-il y voir car beaucoup de houx sont présents dans la forêt à proximité de mon domicile.
Séverine a bien raison, il y a des houx mâles et des houx femelles, la plante est dioïque, il y a donc besoin d'un papan et d'une maman pour qu'elles se reproduisent. Mais il suffit simplement que le vent, l'humidité, le gel au moment de la reproduction viennent créer un désordre pour qu'il n'y ait pas une descendance. Donc, lorsqu'un houx fréquente d'autres houx d'un sexe opposé, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de descendance, sauf quand la nature a décidé de mettre un petit stop pendant quelques temps, quoi. Mais c'est pas un drame, hein, ça va revenir.
Voilà, ne vous inquiétez pas, Séverine, le message d'Alain Baraton qui attend vos questions.
Oui.
Pour la semaine prochaine,
et
merci.
Et Marianne, premier juré, la semaine prochaine, la réponse.
Merci à vous, Alain, vous tiendrez vos promesses, je l'espère.
Oui.